Le dimanche,
12h-12h30,
En avant la musique
sur France Bleu Pays d'Auvergne.
Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver dans l'émission des musiques traditionnelles en Auvergne et ailleurs sur France Bleu Pays d'Auvergne. À pas de loup, aujourd'hui nous recevons deux invités. Ils sortent du bois pour nous parler d'un spectacle jeune public qu'ils accompagnent au violon. Ce spectacle est une plongée dans une peur viscérale du XVIIIe siècle. C'est une ode à la bête, la grande bête, celle du Gévaudan, qui terrorisa à juste titre les proto-lausériens entre 1764 et 1767. C'est précis, hein. Mes invités du jour sont deux violonneux, deux jongleurs de cordes et de mots, de grands échalas sympathiques, deux poètes devant l'éternel. Je reçois aujourd'hui Simon Guy et Romain Wilton Morel.
En avant la musique, Romain Marchand.
Alors Simon Wilton, bonjour.
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 Alors la petite question habituelle de début d'émission, comment êtes-vous tombés l'un et l'autre dans la grande marmite des musiques traditionnelles ?
Eh ben, moi je suis arrivé, j'ai habité un peu à l'étranger, je suis revenu habiter en France avec la volonté de m'intéresser aux musiques traditionnelles plutôt pour des raisons politiques, puisque je venais pas du tout de ce milieu-là à la base. Et quand je suis arrivé à Clermont-Ferrand, j'ai fait mes petites recherches d'abord par Internet, en fait, simplement avec les réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'un ami en commun à nous m'a envoyé le contact de Romain. Et je l'ai simplement contacté pour aller boire un coup et jouer un peu de violon. Et en fait, ça a rapidement commencé comme ça autour d'un violon, d'un verre de rouge et de discussions sur des sujets vraiment variés.
Et tu as eu envie de te mettre à la musique traditionnelle et en tout cas de t'y intéresser en revenant en France parce que tu y avais été confronté dans les pays étrangers où tu avais vécu ?
Moi, j'écoutais pas mal surtout de la pop musique et je pense que j'y suis rentré... j'écoutais Bob Dylan et ces trucs-là, et puis je suis tombé en fait un jour sur. C'est marrant parce que c'est. Enfin, avec 60 ans de retard, mais je suis tombé sur la lettre de Pete Seeger sur la Coca-colonisation, tout ça. Et en fait, ça m'a un peu frappé par rapport à ma propre histoire de la musique. Moi, ma musique, c'était de la musique anglo-saxonne parce que j'avais grandi dedans, mais en même temps, ma famille, elle était issue de Lozère et je connaissais pas du tout j'avais pas cette culture-là, on me l'avait pas transmise et en fait, je m'y suis intéressé. J'ai eu envie de m'y intéresser.
Par toi-même, quoi.
Ouais.
Et du coup, toi, Romain, comment est-ce que tu es tombé dans ce milieu ?
Oui, c'était peut-être une chute parce que je devais avoir 4 ou 5 ans, donc je m'en rappelle pas très bien. Enfin, si, même avant. Enfin, disons que mes parents, ça les intéressait.
Ouais.
Autant que plein d'autres musiques d'ailleurs. Mon père faisait du jazz, donc ça aurait pu être ça aussi. C'est, je pense, la dynamique un peu associative et l'hospitalité de ce milieu-là qui a séduit peut-être mes parents. Donc moi, je me suis retrouvé, quand j'ai voulu faire du violon, à prendre des cours chez les Braillot.
Ouais.
Et j'ai appris une bourrée au lieu d'eau claire de la lune au départ. Quoi. Donc,
ouais, d'accord.
Ça laisse des traces.
Comme beaucoup de nos invités qui viennent, tu as presque appris à marcher sur un parquet. Quoi.
Ouais.
Et deuxième question habituelle, quelle est... Alors, si vous pouvez trouver un souvenir commun, c'est encore mieux. Je pense que ce sera possible. Votre souvenir le plus marquant, je ne dis pas plus beau souvenir, mais votre souvenir le plus marquant dans ce milieu-là. C'est une question difficile, volontairement difficile, parce que comme ça, si vous ne réfléchissez pas trop, vous trouvez tout de suite un truc qui est super et auquel vous n'auriez pas pensé en réfléchissant.
Moi, je pense que du coup, vu que c'est un milieu dans lequel j'ai pas grandi et que j'ai découvert, ça a été au début, en fait, quand je pense, et puis plein de gens qui découvrent ça un peu sur le tard peuvent avoir ce sentiment un peu d'émerveillement. Mon plus beau souvenir, je pense que c'était dans un cantou en Corrèze, où des amis en commun à nous ont chanté. C'est un groupe un peu connu qui ont chanté, mais on a eu la chance de les voir dans le cantou. Et ensuite, on a joué du violon très, très, très tard. Et ouais, moi, c'était un peu un de mes premiers moments d'échange qui n'était pas sur un parquet, qui n'était pas dans une salle de concert, mais qui était vraiment dans un lieu qui était là, on va dire, un lieu public, mais qui n'était pas normalement. On était chez quelqu'un et on échangeait là. Ça a été un peu une de mes découvertes. C'est un moment qui m'a marqué.
Ouais, moi je sais pas dire un souvenir quoi, mais moi je rejoins Simon sur globalement. Enfin, je sais pas si je pouvais caractériser un peu ce qu'on vit de heureux dans ce milieu, c'est vraiment la proximité qui existe entre une musique qui peut être pensée de façon très professionnelle, au sens de la création artistique, au sens du travail, etc., et qui à la fois reste une musique populaire qui effectivement se produit. Au Cantou et un peu n'importe où. Et du coup, y compris des gens qu'on peut admirer tout petit sur des jaquettes de disques, on les rencontre et on s'en fait des amis. Et ça, c'est voilà, cette proximité-là qui est, je trouve, vraiment
heureuse. Je pense effectivement que ça fait partie des grosses spécificités de ce milieu-là, qui doivent exister aussi dans d'autres milieux qui sont pareils, des petits milieux, mais effectivement. Vous êtes là aujourd'hui pour nous parler d'un spectacle pour enfants donc, qui s'appelle La Bête. Avant qu'on en parle, on va écouter un premier extrait. On l'écoute tout de suite.
Notre histoire se passe il y a 200 ans, dans nos montagnes du centre de la France, en Gévaudan. Dans ces pays couverts de noires forêts, bordés de rivières torrentielles et de gorges à flancs escarpés, coupés de saugnes et battus par la burle, la tourmente, les cires et l'auron. Ces pays rudes et gelés, peuplés de congères et de petites maisons esselées qui grelottent.
Capitaine! Capitaine! Faites quelque chose contre ce maudit loup qui dévore nos paysans!
Certains disent que c'est le loup-garou, d'autres disent que c'est une hyène ou une autre animal exotique, et certains disent même que c'est une bête dressée par leurs voisins pour les attaquer!
Eh bien, quoi qu'il en soit, organisez donc des battues.
Ses yeux étincelants, d'un regard redoutable, sont de brasier ardent, elle est épouvantable. Voici comment on dépeint cette bête farouche que tout le monde craint. Elle est si longue et grosse.
Très formidable,
la tête comme un cheval,
l'oreille en corne étonnable
et le poil roux comme un veau.
Alors, on vient d'écouter un extrait de votre spectacle La Bête, qui parle donc de la bête du Gévaudan. Comment vous est venue l'idée, l'envie de faire ce spectacle ?
Au départ, c'était une envie générale de travailler sur le sujet du loup. Parce que il y a, enfin, pour tout un tas de métaphores et de sujets, et puis de simples envies, en fait, aussi d'avoir envie de confronter notre musique de violon à tous les deux à un sujet un peu précis, et le loup revenait dans pas mal de nos discussions. Et ensuite, il y a eu un peu une spécificité, enfin, que Romain avait proposé.
Tu peux... Oui, je suis tombé sur un bouquin, tout simplement, qui a déclenché vraiment l'idée précise de ce spectacle. C'est qu'il y a un peintre qui s'appelle Gérard Latier, qui est encore en vie d'ailleurs, et qui est un peintre cévenol assez fantasque, je sais pas, j'ai pas trop d'autres mots, mais qui avait dans les années 80 réalisé 42 tableaux sur l'histoire de la bête du Gévaudan, par épisode, comme des sortes d'ex-voto en fait, mais assez délire quoi, avec un style presque BD, un peu brut. Et donc, je suis tombé sur ce bouquin chez Guy Brun. Voilà, je le cite aussi parce que finalement, s'il ne m'avait pas invité chez lui, je n'aurais pas vu le bouquin. Et du coup, là, effectivement, en lisant le bouquin, je me suis dit, là, il y a vraiment de quoi faire un spectacle qui raconte cette histoire-là avec ce regard-là, quoi, un peu dingo, quoi.
Ouais, ce qui se prête du coup assez bien à un spectacle pour enfants parce que ça dédramatise aussi l'horreur que ça a pu être à l'époque et ça permet d'en faire un truc un peu plus léger, j'imagine. Et vos axes de travail, c'est un bien gros mot, mais vos sources, vos axes de travail, comment est-ce que vous avez monté ce spectacle ?
Bon, on est vraiment parti du bouquin, en fait, hein. C'est-à-dire de l'histoire telle qu'elle est racontée par Gérard Latier. Puis après, on s'est documenté. Chacun, un peu, on a lu des différentes versions. Parce que ce qui est passionnant quand même avec cette histoire, tout est passionnant dans cette histoire, mais on ne fait pas une émission d'histoire là tout de suite, donc on ne va pas raconter dans le détail l'histoire.
Malheureusement, on n'a pas le temps.
Malheureusement, mais c'est vraiment dommage. Et en fait, tout le monde a son avis sur... notamment ce qu'était cette bête, pourquoi ça s'est passé de cette façon-là. Enfin, voilà, c'est un épisode historique hyper intéressant, politiquement, en tout cas dans l'histoire de l'ancien régime qui se termine. Et du coup, il y a une abondante littérature sur le sujet. Et nous, on a récupéré tout ça. Et puis, on l'a passé dans notre moulinette. Et puis après, l'envie, c'était quand même surtout de faire de la musique. Donc, on a composé, écrit... avec tout ça à portée de main, quoi.
Le spectacle est présenté un peu comme une conférence en musique ou c'est complètement différent de ça ? Alors, parce que moi, je ne l'ai pas encore vu, je peux le dire.
En fait, on se présente comme deux colporteurs des temps modernes. Et donc, on est armés de nos violons et on raconte l'histoire de la bête du Gévaudan.
D'accord.
Et puis, on a sur scène une sorte de castelet, comme si on allait faire du théâtre de marionnettes, sauf qu'en fait, ce sont les images, ce sont les peintures de Gérard Latier, qui sont diffusées pour appuyer ou contredire les propos des deux violoneurs raconteurs qui, des fois, racontent n'importe quoi.
D'accord. Je vous invite, chers auditeurs, à aller regarder et rechercher sur Internet Gérard Latier pour voir son œuvre, parce que forcément, on a la radio, on ne peut pas vous montrer, mais c'est vraiment...
C'est vrai que ce n'est pas très radiophonique de parler de peinture.
C'est vraiment superbe.
Mais alors, par contre, je précise un truc, c'est que on en a fait un truc pour enfants, mais toute l'œuvre de Gérard Latier ne convient pas aux enfants.
Effectivement, c'est réservé aux yeux aguerris. On va écouter un deuxième extrait. Est-ce que, Simon, tu peux me dire un peu ce qui se passe dans cet extrait, vu que c'est encore une fois à la radio, est-ce que c'est possible ? Ou sinon, on l'écoute et après on en parle, si tu préfères.
Après.
Eh bien, on en parle après, on l'écoute tout de suite.
La situation est compliquée, vous me mettez, monsieur Marquis, dans une posture alambiquée. Cependant, nonobstant, en même temps, j'entends la détresse des paysans du Gévaudan, mais que peut-on contre un tas de poils et quelques dents ? Franchement, assurément, en même temps, que faut-il faire, mon roi ? Y a-t-il sur terre une loi ? Des militaires au sang-froid, qu'on s'en défaire cette fois ? Que faut-il faire, mon roi ? Y a-t-il sur terre une loi ? Des militaires au sang-froid, qu'on s'en défaire cette fois ?
Vous êtes toujours sur France Bleu Pays d'Auvergne dans En avant la musique.
France Bleu Pays d'Auvergne aime la musique trad. En avant la musique, chaque dimanche jusqu'à midi et demi.
Alors Simon, tu nous as dit que tu allais nous parler de cet extrait. Et qu'est-ce qui se passe dans cet extrait ? Alors Romain, tu peux en parler aussi.
Il pourra en parler, oui, parce que c'est un petit bout de texte que tu as écrit, d'ailleurs, il me semble, Romain, et j'avais mis en musique ce bout de texte. On l'avait travaillé, si je mes souvenirs sont bons, en plus on l'avait travaillé ça à Saint-Flour. dans le territoire de la bête. C'est le seul travail qu'on avait pu faire sur place, donc on était contents. C'est une demande auprès du roi de ce qu'il faut faire de cette bête au début du spectacle, et qu'on a mis en chanson avec on a cette idée de dans le spectacle de deux discours qui parfois s'associent, parfois se contredisent. Là c'est un moment où ça se détache. On a des phrases qui sont donc dites ensemble, et puis ensuite c'est chanté, c'est plutôt le personnage du roi qui chante, puis on a des réponses au milieu. Donc il y a tout un tas de jeux où on incarne des micro-rôles en fait à certains moments du spectacle, et parfois en chanson, parfois en personnage. Et là c'est un petit peu un exemple de ces petits rebonds qui peut y avoir.
Donc c'est un spectacle pour enfants qui est présenté principalement dans un milieu scolaire pour le moment. Ou est-ce que vous avez des dates? Est-ce que vous avez des... Alors bien sûr, dans la période qu'on vit, avoir des dates c'est un bien grand mot. Mais est-ce que vous avez des projets de le présenter dans des festivals, etc.?
Oui, alors c'est un spectacle tout public. Hein. Donc effectivement, il est pensé pour pouvoir apprécié par des enfants. Nous, on a la chance d'avoir été coproduit par les Jeunesses Musicales de France, qui est donc une association, une union nationale qui permet à des spectacles comme celui-là en musique de trouver un public parmi des scolaires, des délégations dans tout le territoire. Donc on a des dates par rapport surtout à ça. Mais évidemment, nous, on démarche aussi pour pouvoir jouer dans d'autres contextes et jouer devant tout type de public. Et puis, effectivement, si on a monté ce spectacle, c'est parce qu'on avait envie de faire notre musique aussi avec cette histoire-là. Et donc, notre musique, c'est aussi une musique qui, d'emblée, a sa place dans tous les festivals de musique traditionnelle, et puis et même un peu au-delà. Ouais.
Un peu au-delà, j'imagine.
Tous les festivals.
Ouais.
Alors tous les festivals, écoutez-nous bien.
Mais comme ils sont tous annulés,
tous les festivals pas annulés, programmez la bête, ça sera super. Bon, l'émission touche malheureusement déjà à sa fin, c'est court. Hein. Sans spoiler le spectacle, à votre avis, la bête, c'était quoi?
Alors déjà, sans spoiler le spectacle, c'est une question qu'on pose à plusieurs reprises dans le spectacle. Chacun peut en faire son interprétation. Je laisserai Romain dire un petit mot après. Moi, je personnellement, c'est une légende que j'avais entendue quand j'étais petit. Donc il y a tout l'imaginaire qui va avec. Mais ce que je trouve intéressant surtout aujourd'hui, c'est le recul qu'on peut avoir évidemment sur cette histoire, parce qu'en fait, les monstres, quels que soient les monstres, c'est souvent une invention en fait pour pouvoir faire parler de quelque chose. Enfin, parler de peur, comme Godzilla peut raconter l'histoire du Japon post-Hiroshima ou King Kong et le colonialisme américain. La bête, ça en dit beaucoup sur l'époque en question. Et en plus, nous, on a aussi choisi, vu que nous, c'est notre monstre qu'on utilise, que ça veut dire la même chose un peu pour nous, on essaye de raconter à travers ce monstre ce que ça en dit, sans spoiler, ce que ça dit de notre époque en ce moment même, en fait.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Disons que à plusieurs moments dans le spectacle, on pourrait penser que la bête, c'est le Covid. Enfin non, mais dans l'esprit de la crise de panique, en fait.
Ouais, le grand monstre, grand monstre actuel, mais qui n'est qu'un monstre parmi tant d'autres, en fait.
Et toutes les prises de parole des gens qui sont censés avoir l'autorité ou bien l'érudition, c'est amusant, quoi, de voir comment c'est comparable. L'époque du virus et l'époque de la bête, quoi.
Ça nous est venu assez naturellement, en fait, en écrivant le spectacle, en regardant des textes, des personnes érudites, on a écrit certains trucs en février, mars, et on rigolait en lisant les trucs, on rigolait juste nous deux, en se rendant compte à quel point le parallèle pouvait se faire.
C'était facile à faire, quoi. Vraiment, c'est presque évident. Et merci beaucoup d'avoir été là. En tout cas, ça me donne vraiment envie. J'espère que ça donnera envie aux auditeurs aussi d'aller voir ce spectacle. Qui s'appelle donc La Bête, que vous pouvez retrouver en cherchant sur Google La Bête, Lake Central par exemple, sera peut-être la solution.
C'est la compagnie Lake Central.
La compagnie Lake Central qui produit tout ça. On va écouter un dernier morceau de musique qui n'est pas extrait du spectacle, mais qui est quand même extrait des deux bonhommes qui jouent dans le spectacle. Qui est-ce qui me le présente? Et après on pourra se dire au revoir.
Bah, c'est un morceau qui s'appelle Carnaval des Passes. C'est une suite de deux bourrées qu'on a enregistré dans un disque de notre duo avant qu'on fasse le spectacle à Bête. Le duo, c'est Tsaplutzair, ça veut dire les faiseurs de copeaux. Et peut-être vous allez comprendre pourquoi.
Eh ben, merci beaucoup. On écoute ça tout de suite et on se dit à la semaine prochaine. Et avant de se quitter, on peut quand même vous souhaiter un excellent Noël qu'on espère en famille, mais faites attention à vous.